Chers amis auditeurs d'Agora, bonsoir. Revoici Opéra Agora, notre émission sur l'opéra et son monde si particulier. Depuis les compositeurs en passant par les coulisses et quelques moments de vécu. Au micro, votre serviteur, Christian Segarici, chef d'orchestre, directeur d'opéra. Voici la rentrée. Nancy Zottier, notre metteur en onde, et moi sommes très heureux de vous retrouver et espérons que vous avez passé de bonnes vacances. Chaque émission, un opéra différent. Ce soir, nous inaugurons le cycle Verdi avec la Traviata. Verdi était un immense créateur qui, entre autres caractéristiques, a eu la particularité de naître dans l'Empire français de Napoléon Ier en 1813 et de mourir en Royaume d'Italie en 1901, toujours en restant dans le même pays, les mêmes lieux, à savoir le nord de l'Italie, qui a connu bien des transformations géopolitiques. Il sera même naturalisé français sous le nom de Joseph Fortunin Verdi, car Bonaparte ne plaisantait pas avec les prénoms étrangers. Interdiction formelle de choisir un prénom qui ne soit pas français pour pouvoir travailler. Depuis son enfance, le jeune et modeste Verdi n'aura qu'une idée en tête, chasser l'envahisseur français, et plus tard, autrichien, de son pays natal pour aboutir à l'unité italienne et au sacre du roi Victor Emmanuel Ier, et cela au moyen de messages politiques délivrés dans ses opéras. Mais, bien sûr, par situation transposée dans le temps. Tout en se servant de son génie musical, Verdi suivra le mouvement révolutionnaire amorcé par Garibaldi et supervisé par Cavour, l'homme du fameux Risorgimento, c'est-à-dire la résurrection. Ainsi, Verdi a été un homme politique incontournable, devenant député puis sénateur de la toute première assemblée démocratique italienne. Il est vrai que lorsque l'on a un patronyme qui est déjà un slogan politique, il est plus facile d'entraîner les foules dans son sillage. Et si en plus on est le grand compositeur que les Italiens attendent depuis longtemps, c'est le top. En effet, Verdi, V-E-R-D-I, était devenu le slogan que les révolutionnaires italiens scandaient dans les rues de la révolte. V comme Victor, E comme Emmanuel, R comme roi, D-I d'Italie. Cela donnait Victor Emmanuel, roi d'Italie. C'est à cela qu'aspiraient, bien entendu, les Italiens révolutionnaires qui voulaient enfin que toutes ces provinces qui étaient maintenant ou bien sous le joug de Napoléon ou bien de l'Empire autrichien, eh bien que toutes ces provinces fassent enfin l'unité italienne. Verdi agite les foules et manifeste tant et si bien que pourchassé par la police, il doit s'enfuir en bateau comme réfugié politique. Puis, entouré de ses librettistes célèbres comme Piave et Boito, puisant dans les sujets d'opéra auprès des grands écrivains tels que Victor Hugo, Alexandre Dumas ou encore Shakespeare, eh bien le succès était au rendez-vous. Comme il a vécu 88 années, on peut distinguer une vraie progression dans ses créations que l'on peut classifier en trois parties. Dans sa production de 28 opéras, tous joués encore à l'heure actuelle. Premièrement, la jeunesse des années 1835, avec des opéras comme Les Lombards ou encore le célébrissime Nabucco et son fameux Cœur des esclaves que tout le monde connaît. Deuxième période, la maturité des années 1850, avec la célèbre trilogie Rigoletto, La Traviata, Le Trouvère. Enfin, troisième partie, la vieillesse, à partir des années 1870, avec les derniers opéras Aïda, Don Carlos, Le Requiem, Othello et Falstaff. Ce soir, c'est la Traviata que nous évoquons. La Traviata, c'est-à-dire la dévergondée, la femme de mauvaise vie, la courtisane, la presque prostituée. C'est cela, la Traviata. Opéra qui reste peut-être l'œuvre la plus jouée de Verdi et l'un des plus beaux fleurons de toute la grande musique. C'est un opéra tiré de la pièce roman d'Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias. Cette courtisane adorée de l'aristocratie du XIXe siècle, d'après l'aventure qu'avait eue Dumas lui-même avec la belle Armande Duplessis. La courtisane qui fait payer ses services amoureux rêve d'un véritable amour qu'elle rencontrera enfin, mais trop tard, car elle est tuberculeuse et mourra dans la quasi-solitude et la souffrance. Pour l'instant, le rideau se lève. Écoutons le prélude orchestral, un tube qui a fait le bonheur des publicitaires actuels à la télé. Un monument musical en deux parties. Un début maladif, tragique, musique de chambre de malade qui nous conduit dans un drame de la tuberculose tellement redouté au XIXe siècle. Puis, une mélodie sereine et populaire qui a même été adaptée en tango. Eh oui, en tango au XXe siècle, sous le nom de Violetta. Violetta qui est d'ailleurs le prénom de la Traviata. Écoutons Karajan et la Philharmonie de Berlin, prélude de la Traviata. Thank you. personnage célébrissime dont on peut admirer l'inspiration si particulière, basée sur l'antithèse ombre et lumière, maladie et santé. Et puis la fête commence. La belle Violetta, la Traviata, donne grande soirée en sa demeure fastueuse parisienne. Sont réunies toute l'aristocratie, mais aussi quelques têtes nouvelles. Et en particulier, ce jeune Alfredo Provençal, qui deviendra le seul amour véritable de Violetta. Il faut célébrer la joie. Levons nos verres. C'est le moment du toast, c'est-à-dire du célèbre brindisi. Écoutons l'incomparable Luciano Pavarotti dans le rôle d'Alfredo et Barbara Swanson qui lui donne la réplique. Brindisi. cette page, que tout le monde connaît, fait partie de ses grands chefs-d'œuvre. Mais c'est aussi un moyen très efficace pour la dramaturgie, pour confronter rapidement, immédiatement, la jeunesse d'Alfredo et sa joie à la nostalgie qui a déjà envahi Violetta, qui se sait condamnée par la maladie. Car, à la fin du Brindisi, Alfredo en profite pour lui déclarer son amour et son admiration sincère à cette femme courage dont il a saisi l'âme superbe et généreuse, faisant oublier la vie libertine de cette Traviata. Traviata, je vous le rappelle, qui signifie « la dévoyée », ne l'oublions pas. Et le premier acte se termine par le grand air de la soprano, dans lequel Violetta se demande si elle doit se risquer à ce grand amour véritable, mais qu'elle sait peu durable, vu qu'elle est condamnée par la maladie. Mais c'est l'optimisme qui l'emporte, un peu de mélancolie. Puis, en entendant la voix d'Alfredo qui lui répond amoureusement, plein d'espoir, elle s'abandonne, elle aussi, à l'espérance, au plaisir de la vie. Vivre peu, mais intensément, sans limite. Écoutons cet air sublime que se disputent toutes les sopranos dans les concours de chant, tant ils mettent en exergue toutes les difficultés de l'art vocal, feu d'artifice, de vocalise aiguë, mais aussi de musicalité profonde. Estrano, c'est étrange. Qu'est-ce donc que ce sentiment que je ressens? Voilà ce que nous dit Anna De Trepko, que nous écoutons dans ce grand air.
Oh!
Voici maintenant au deuxième acte. Et Alfredo, tout heureux, est installé maintenant chez Violetta. Et il chante son bonheur. Violetta aussi est très heureuse. Tout va bien en ce début de deuxième acte. Alfredo chante « Loin d'elle, ma vie n'a aucun sens ». Lunge da lei, c'est un air pour ténor, et écoutons cette page par Placido Domingo, mon ami que je salue au passage.
Agora Côte d'Azur.
Violetta, oggi per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste, valio maggiavezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. E or contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso a lei a rinascer mi sento, e la soffio d'amor rigenerato scorrendo nei gaudi suoi tutto il a te fedele, sì, cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo.
Les nuages apparaissent. Après ce bonheur éphémère, débarque le père d'Alfredo, le noble comte Germont, qui vient tout droit de sa Provence pour faire la morale à son fils. C'est le baryton à la scène. Il vient faire un scandale à son fils qu'il juge être devenu un gigolo, à la merci d'une courtisane qui risque de le ruiner, et c'est un air de bel canto pur pour baryton Verdi, c'est-à-dire baryton qui possède de très solides aigus, d'une tessiture presque de ténor, mais aussi des graves profonds et suaves. Le père supplie son fils de retourner à cette chère Provence qu'il a abandonnée pour venir se perdre dans la débauche parisienne avec une quasi-prostituée. Quelle honte ! Deux couplets de grande poésie et une coda finale sous forme de cadence grimpant jusque au sol bémol aigu. C'est très aigu pour un baryton, hein. Pour terminer ce magnifique morceau à la structure un peu de chansonnette, on dirait, mais d'une grande élégance, à la mesure du personnage noble du comte Germont. Ce comte Germont qui finira même par aimer lui aussi Violetta, après avoir compris qu'elle n'est pas du tout l'arriviste qu'il soupçonnait, bien au contraire. Un très beau rôle que ce personnage, très prisé des barytons à la voix suave, riche en harmonique, ce que nous, les chefs d'orchestre, appelons des violoncelles. Écoutons. Di Provenza il mar, il sol. Le sol et la mer de la Provence, pourquoi les as-tu oubliés ? Écoutons Vladimir Orostovski.
Thank you. tu non sai quanto soffri il tuo vecchio genitore per andare di squallo il suo tetto si coprì il suo tetto si coprì e di squallo
merveilleuse musique pour merveilleux baryton disparu trop tôt, lui aussi, hélas. Et Alfredo écoute patiemment son père, mais rien n'y fait. Il est vraiment amoureux de Violetta et il ne veut rien entendre. Le père, Germont, s'enfuit furieux, puisque c'est ainsi. Il ira donc voir lui-même cette Traviata chez elle et la sermonner. Mais, peu à peu, devant la sincérité, la noblesse et la maladie de la belle courtisane, lui aussi sera finalement conquis par cette femme au grand cœur qui veut même léguer sa propre fortune, qui est considérable, à Alfredo. C'est tout le contraire de ce qu'avait imaginé Germont. Et le père finira même, au final du deuxième acte, par sermonner son propre fils en public. Le propre fils, Alfredo, qui a fini, fou de jalousie, par insulter la pauvre Violetta, au comble du désespoir et de la maladie. Le jeune fou défie même en duel le baron d'Oufol, qu'il pense être le nouveau favori de la Traviata, et qui en réalité n'est qu'un prétendant parmi tant d'autres. Pour l'instant, c'est à nouveau la fête. La Traviata a mis son camélia blanc à la boutonnière, ce qui veut dire qu'elle est prête à de nouvelles aventures amoureuses, ce que lui interdirait la mise du camélia rouge, évidemment un code que l'on comprend aisément. Pour Verdi, c'est l'occasion de nous offrir l'un de ses ballets les plus connus, le ballet des Gitanes, venu animer cette superbe soirée. Écoutons ce ballet. C'est encore, ça aussi, un tube et bien sûr une aubaine pour la pub à la télé qui l'a mis à toutes les sauces. Noi siamo zingarelle, nous sommes les jeunes gitanes. Écoutons par le chœur de l'Opéra de Paris. Vous connaissez cette musique, elle est incontournable. Il faut tout de même, en toute humilité, et toujours avec l'amour et le respect que j'ai pour Verdi, ce génie, il faut constater que le ballet n'a jamais été vraiment la force de Verdi. Il n'était pas intéressé par la musique de danse. En dehors de la Traviata et de Aïda, les autres opéras de Verdi qui comportent des ballets, eh bien, il faut bien avouer que ces ballets ne sont pas très réussis. Ils sont d'une qualité honorable, c'est tout. On comprend même que Verdi les composait car c'était une obligation pour l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris, qu'il appelait la grande boutique, et où les membres du Jockey Club voulaient voir danser leur petite protégée. Voilà, cela faisait partie du cahier des charges de l'Opéra de Paris, un ballet. Ce qui en dit long sur les concessions qu'a dû faire Verdi pour être joué à Paris. Mais dans le cas de la Traviata, nous avons affaire à une belle trouvaille musicale, délicieuse de légèreté et de rythme, convenant à merveille à la fête, car en plus le chœur féminin s'empare de la mélodie. Ce qui est rare en matière de ballet, où généralement c'est l'orchestre seul qui joue. Et à ce ballet des Zingarelle suit le ballet des Matadors, alors là chanté par le chœur masculin, cette fois encore qui s'empare de la mélodie, et le final fait intervenir la totalité du chœur mixte, hommes et femmes, dans un tourbillon musical où les danseurs et danseuses étoiles rivalisent de virtuosité. Voir l'incontournable film de Visconti sur la Traviata. Mine de rien, cela implique que si l'on veut représenter à l'opéra une Traviata digne de ce nom, il faut avoir bien sûr un grand ballet d'une vingtaine de personnes, mais aussi des danseurs et danseuses étoiles de premier ordre. Ce qui revient à dire que les petits théâtres de province, qui ne disposent pas toujours de ce personnel artistique à l'année, question de budget évidemment, doivent faire intervenir des compagnies privées de danse et un chorégraphe compétent. Le ballet terminé, les tables de jeu prennent place et les disputes commencent entre joueurs. Alfredo, particulièrement remonté, provoque le baron Duffol, qu'il juge beaucoup trop entreprenant auprès de Violetta. C'est la bagarre. Violetta s'en mêle. Alfredo l'insulte violemment aux yeux de tous. Arrive sur les entrefaites le père d'Alfredo, furieux de voir son fils devenu une espèce de voyou. Et il vient le sermonner devant toute l'aristocratie. La pauvre Traviata se lamente dans un merveilleux concertato, c'est-à-dire un moment très élaboré de musique complète, polyphonique, où tout le monde participe, les solistes, les chœurs, l'orchestre, tout cela dans un bon quart d'heure de musique savante, magnifique, comme il était de tradition pour terminer le deuxième acte d'un opéra. Et nous voici maintenant au troisième et dernier acte. Lorsque l'on demandait à l'immense Jean Gabin, acteur de légende, ce qu'il fallait pour réussir un film, il répondait invariablement « Il faut avant tout une bonne histoire », comme il avait raison. Et pour l'opéra, c'est pareil. Et dans la Traviata, on voit comment l'œuvre littéraire d'Alexandre Dumas a fait merveille. Car bien sûr, la Dame aux Camélias, c'est une merveilleuse, triste histoire romantique qui n'a pas pris une ride. Comme au premier acte, l'orchestre prélude seul, reprenant cette musique de chambre de malade que l'on n'a plus entendue depuis le lever du rideau au premier acte. C'est un procédé appelé flashback que les compositeurs, avant même que le cinéma ne s'en empare, employaient pour confronter le présent avec le passé, plein de nostalgie et de souvenirs. Violetta est seule sur son lit d'agonie. La tuberculose a fini par vaincre la belle courtisane qui est seulement entourée d'Annina, sa femme de chambre. Tout le monde l'a abandonnée. Maintenant qu'elle est au bout de sa vie, c'est l'hiver. Au dehors, les échos joyeux d'un carnaval nous font encore plus sentir par contraste l'affreuse solitude de la maladie et bientôt de la mort. Le prélude orchestral est magnifique de tristesse. Puis, le violon solo fait entendre la phrase d'amour que chantaient Violetta et Alfredo au tout début du premier acte. Vous vous souvenez ? C'était notre troisième extrait musical. Puis, sur ce somptueux violon solo dans l'aigu, plein de nostalgie, Violetta lit péniblement, à haute voix, la lettre que lui a envoyée le merveilleux comte Germont, le père d'Alfredo. Cette lettre, pleine d'humanité, nous dit que bientôt le père et le fils vont bientôt arriver à Paris pour porter secours et assistance à Violetta, qu'ils savent à l'agonie. C'est trop tard. « Est tardi, est tardi !» hurle Violetta. « C'est trop tard !» Elle se soulève en un suprême effort et, se contemplant dans le miroir qu'elle n'ose plus regarder, elle se voit si changée, si malade, et nous chante sa dernière mélodie si poignante. Addio del passato. Adieu au passé. Adieu aux souvenirs. Adieu aux roses de la vie. Deux couplets d'une exceptionnelle beauté accompagnés au hautbois. Alfredo et son père arriveront bien tard, juste pour voir mourir Violetta, qui, dans un suprême effort, en les voyant, et après avoir quand même redit son amour si pur à Alfredo, elle se dresse, et tout en s'écriant que, miracle, elle renaît à la vie, je ressens la vie, je ressens le sang dans mes veines, la vie renaît, et elle s'effondre et meurt sur une musique terrifiante. Et c'est là où, évidemment, l'on veut voir dans la Traviata non seulement une immense cantatrice, mais aussi une grande comédienne à la Sarah Bernhardt pour nous faire vivre ces instants. Qui mieux que l'incomparable Maria Callas pour nous émouvoir à l'extrême ? Alors, malheureusement, les mélomanes amateurs du bon son actuel des enregistrements d'aujourd'hui risquent peut-être d'être déçus, mais là, l'extrait que nous vous présentons avec ma chère Nancy, qui met toutes les émissions en ondes, eh bien, cet extrait vieillot et au son vintage est un moment rarissime pris sur le vif à la Scala de Milan dans les années 60. Callas en scène à la Scala sous la baguette de Carlo Maria Giulini, ce chef si raffiné, si inspiré, avec lequel j'ai eu l'immense honneur d'être moi-même programmé simultanément dans une saison au San Carlo de Naples, que je n'oublierai jamais tant je l'ai admiré, ce musicien exceptionnel, et que je vénère encore comme l'un des plus grands chefs du XXe siècle, disparu, hélas, lui aussi. Pour terminer cette émission, écoutons ensemble la Callas dans Addio del Passato. Versons ensemble une larme et rendez-vous le mois prochain, toujours quatrième lundi à 20h avec ma chère Nancy pour un nouvel opéra de Verdi. Écoutons Addio del passato, La Callas. Bonsoir.
Il vostro sacrificio